Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Dans ce journal, nous reviendrons sur les violences à Paris pour le premier anniversaire des Gilets jaunes.
Et à l'étranger, le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, porté par la démission de Morales en Bolivie, mobilise de nouveau plusieurs milliers de manifestants contre Nicolas Maduro. Plus de 6 Français sur 10 renoncent à voir un médecin. Une enquête BVA pour les associations de malades.
Nos invités dans le 6-9 à 7h50, Patricia Martin recevra Grégoire Kaufmann, historien, écrivain. Il publie chez Flammarion, Hôtel de Bretagne. À 8h20, Karine Thuil sera avec nous. Son roman « Les choses humaines » chez Gallimard a reçu le prix Interallié et le Goncourt des lycéens. Un livre qui raconte notre époque, la condition des femmes, les violences qu'elles subissent, la justice, le pouvoir, les faux-semblants.
France Inter. Flambée de violence à Paris hier pour le premier anniversaire des Gilets jaunes qui a mobilisé 4700 personnes dans la capitale, 28000 dans toute la France. Des voitures renversées, du mobilier urbain et des vitrines cassées, des feux allumés place d'Italie, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre sont venus ternir cette date anniversaire de la contestation sociale. C'est le reportage de Jean-Michel Najat.
Le nettoyage de la place d'Italie après 4 heures d'affrontement. Pascal habite le quartier, elle est venue constater les dégâts.
Ça m'écœure un petit peu, quoi. Les arrêts de bus, le sol, les poubelles cramées, les voitures de gens qui, bah, comme eux, ont peut-être du mal à finir les fins de mois. Ça me désole.
Mais ces violences ne sont pas de la responsabilité des Gilets jaunes. C'est le point de vue de Valérie, quelques heures plus tôt au cœur des affrontements. Elle laissait éclater sa colère contre les forces de l'ordre.
C'est vrai que des gens ont cassé, ils le savaient très bien, mais ils nous ont gazés. Quand on masse des gens à longueur de temps, voilà, à un moment donné, il y a des gens qui supportent plus cette soumission.
En fin d'après-midi, les sirènes de police dans le quartier des Halles, c'est là que les manifestants se sont retrouvés. Leur combat est loin d'être terminé, prévient Dragos, un gilet jaune de la première heure.
C'est juste le début du début. Hein. Nous savons que nous embarquons pour 3 années minimum de résistance. Voilà.
Les Gilets jaunes prévoient de nouvelles actions dès aujourd'hui et attendent la prochaine étape, la convergence des luttes avec la grève du 5 décembre.
Jean-Michel Najat, et ajoutant qu'à 20h hier soir, la préfecture de police avait procédé à 147 interpellations. Deux jeunes de 26 et 27 ans accusés d'avoir frappé, séquestré et tué Oliver, âgé de 17 ans, ont été mis en examen et écroués hier, quelques heures après une marche blanche en mémoire du jeune homme dont le corps a été découvert jeudi près de Tours. À l'étranger, 4 personnes ont été tuées hier dans des manifestations en Bolivie. Le bilan s'élève désormais à 23 morts depuis fin octobre, début de la crise qui secoue le pays. Des affrontements opposent des producteurs de coca, partisans de l'ancien chef de l'État socialiste Evo Morales, aux forces de l'ordre. Et cela depuis que la sénatrice de droite Jeanine Agnès a pris le pouvoir. Inquiétude de Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Selon elle, la situation est susceptible d'échapper à tout contrôle depuis la démission d'Evo Morales dimanche dernier. Elle dénonce, je cite, « l'usage inutile et disproportionné de la force par la police et l'armée ».
Laurence, comme en Bolivie, l'opposant vénézuélien Juan Guaido aimerait bien voir s'enfuir à l'étranger le président Maduro.
À Caracas et dans plusieurs autres grandes villes du pays, plusieurs milliers de Vénézuéliens ont répondu à l'appel de Juan Guaido, reconnu président par intérim par une 50aine de pays. On est encore loin des grandes manifestations du début de l'année, mais ce n'était pas un échec total pour l'opposant. C'était même la plus grande manifestation depuis le 1er mai, au lendemain du soulèvement militaire avorté. Juan Guaido a bénéficié d'un léger regain d'espoir lié à la démission d'Evo Morales en Bolivie. C'est le reportage de notre correspondant à Caracas, Benjamin Delisle.
Après Evo, autour de Maduro, peut-on lire sur les banderoles de la place José Curti au centre de Caracas. Manuel, 35 ans, agite un drapeau bolivien. Il assure que sans la crise en Bolivie, il n'aurait pas manifesté.
C'est clair que le Vénézuélien a perdu cette force. Il s'est endormi et a abandonné la rue. Mais de voir qu'en Bolivie, ils ont eu le courage de faire démissionner Evo Morales, ça remotive.
Certes, c'est un regain timide car la majorité des Vénézuéliens a préféré rester chez elle. Mais selon Désiré, une militante transgenre, c'est un bon début.
On espère qu'après aujourd'hui, les gens vont s'unir à nouveau pour manifester, mais beaucoup ont peur parce que vivre au Venezuela avec la répression des forces de sécurité, c'est risqué. Personne n'est libre, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme.
L'attitude des forces de l'ordre, c'est justement ce qui distingue le Venezuela de la Bolivie, estime la députée Delsa Solorzano.
En Bolivie, par chance, les forces armées et la police se sont manifestées en faveur du peuple. Ici, nous avons une armée et une police qui est complice de tout ce qu'il se passe au Venezuela.
Reste que Juan Guaido a tout fait pour surfer sur la crise bolivienne. Après son discours, il a entraîné le cortège jusqu'à l'ambassade de Bolivie en soutien à Jeanine Agnès, la nouvelle présidente par intérim. Caracas, Benjamin Delisle, RFI pour France Inter.
Une interview sans précédent hier soir à la télévision britannique. Le prince Andrew, deuxième fils de la reine d'Angleterre, mis en cause dans l'affaire Epstein, a catégoriquement démenti les accusations d'une femme qui affirme avoir été violée en 2001 alors qu'elle avait 17 ans, puis à deux autres reprises à New York et sur l'île privée du financier américain dans les Caraïbes. Une photo montrant le prince et la jeune fille ensemble a été d'ailleurs largement diffusée dans les médias. Andrew regrette cependant d'avoir fréquenté le financier américain Jeffrey Epstein, une amitié, dit-il, qui a pu mettre la famille royale dans l'embarras.
7h06, Laurence Thomas, à présent, cette enquête BVA publiée ce matin dans le journal du dimanche. L'accès aux soins n'est pas si simple en France.
Alors que l'hôpital crie sa détresse et qu'on attend les annonces d'Edouard Philippe mercredi prochain sur cette question, France Assos Santé, l'organisme qui fédère les associations de patients, révèle que les deux tiers des Français ont déjà renoncé à des soins, soit pour des raisons d'argent, soit pour des délais d'attente trop longs. Conséquence en tout cas de cette situation, bon nombre de patients finissent aux urgences. Véronique Julia.
63% des Français ont déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières, à cause d'un reste à charge trop important ou une impossibilité d'avancer les frais, surtout chez les jeunes et les revenus nets inférieurs à 1 500 €. Pour des raisons d'accès aux médecins aussi, avec des délais de rendez-vous trop longs ou tout simplement un manque de médecins pas trop loin de son domicile. Un quart des personnes interrogées expliquent qu'il leur faut plus de 3 mois de délai pour un rendez-vous en dermatologie. Et en termes de distance, les Français habitant la campagne expliquent mettre près d'une heure pour pouvoir se rendre chez l'ophtalmo. Sur le coût de l'accès aux soins, 67% des Français se disent couramment confrontés à du dépassement d'honoraires. Un renoncement aux soins qui a ses conséquences, anxiété, angoisse, majoration des symptômes, hospitalisation d'urgence, les urgences comme dernier abri. Ces deux dernières années, le manque de médecins, relève l'étude, a déjà conduit 20% des Français et 25% des malades chroniques à se rendre aux urgences pour une prise en charge. Les maisons médicales de garde, auxquelles on peut se rendre aussi en cas d'urgence, restent assez méconnue, la moitié des personnes interrogées n'en ont jamais entendu parler.
Véronique Julia.
Les chutes de neige, Laurence, de ces derniers jours le confirment, c'est un temps à faire une fondue.
Et parce qu'en Suisse, on ne plaisante pas avec les emblèmes nationaux, le village de Tartenien organise tout le week-end le mondial de fondue. 10 000 visiteurs attendus, plus de 3 tonnes de fromage à écouler et des compétiteurs venus de toute l'Europe. C'est le reportage de Jérémy Lanche.
Tomber son pain dans la
fondue.
Ah,
gage. Oh non, ça y est, du vrai fil de.
Oh, regarde ça, c'est dingue.
Pas question de rejouer la scène des bronzés au mondial de la fondue. Ici, le fil dentaire est interdit. La fondue, c'est du sérieux. Stéphane Jaillet est le président du comité d'organisation.
On a 80 candidats amateurs, 40 professionnels qui viennent avec un mélange, mais ils doivent avoir 50% de gruyère AOP. Le reste est libre.
Et pour faire la différence, tout le monde a sa technique et son secret.
La spatule en bois. Toujours la même spatule en bois et toujours tourner la fondue dans le même sens.
Le secret de la bonne fondue, c'est d'abord, c'est un bon fromage. Et puis après, bah, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement.
Derrière le folklore, il y a aussi de vrais enjeux avec l'assurance pour le ou la fromagère qui sera sacré champion du monde de faire exploser ses ventes. Reste une question, quasiment une déclaration de guerre. Quelle est la meilleure fondue, la savoyarde ou la suisse? La réponse est unanime.
En France, ils ne savent pas la faire. Le fromage, il est obligatoirement du vrai gruyère. Vous avez de l'emmental avec des gros trous dedans. Nous, il est sans trous.
Ça veut dire qu'un Français peut pas gagner le mondial de la fondue là.
Si, mais avec nos fromages.
À Tartenien en Suisse, Jérémy Lange, France Inter.
Un mot de sport et une finale de novice au Masters de tennis de Londres. Comme un vent de fraîcheur sur le tennis mondial, l'Autrichien Dominic Thiem a battu le tenant du titre, l'Allemand Alexander Zverev en demi-finale et le Grec Stefanos Tsitsipas a fait tomber le vétéran suisse Roger Federer. Les deux finalistes sont âgés de 26 et 21 ans.
C'était le journal de Laurence Thomas. Les prévisions météo pour ce dimanche.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Jean-Michel Golinski de Météo France est avec nous. Jean-Michel, fin de l'alerte orange aux fortes pluies dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Ah, tout à fait Pierre, mais néanmoins aujourd'hui le temps va rester instable et porteur d'averses entre la Garonne et les Pyrénées avec de la neige au-dessus de 1000 mètres et toujours ce risque de crue pour la Dour et la Midouze. La dépression centrée entre l'Italie et la Corse va générer un temps maussade des Vosges aux Alpes du Nord avec de la neige à basse altitude, du vent en Méditerranée dégageant le ciel du golfe du Lion à la Provence mais donnant des pluies continues sur l'ouest de la Corse et un vent très turbulent à 80 km/h sur les caps. Partout ailleurs, la grisaille va évoluer assez lentement vers un ciel tout de même plus lumineux en cours d'après-midi. Les températures maximales seront fraîches et souvent inférieures de 4 degrés par rapport au normal.